Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. L'émission qui vous fait découvrir tous les dimanches à midi des talents français qui ne manquent pas d'ingéniosité, d'idées créatives pour privilégier le made in France, le fabriqué en France. Alors tout à l'heure, je vous ferai découvrir des Bretons qui ont décidé de relocaliser la production de thé sur le sol breton. Et oui, du thé réellement 100% made in local. Mais tout de suite, avec notre premier invité, nous allons évoquer un tout nouveau projet anti-gaspi. C'est parti pour cette émission consacrée à ceux qui sont engagés pour une meilleure alimentation.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Et nous sommes en studio avec notre premier invité, Lucas Lefèvre, cofondateur de La Fourche. Bonjour Lucas.
Bonjour Nathalie.
Pourriez-vous déjà peut-être nous expliquer ce qu'est La Fourche pour ceux qui nous écoutent ?
Bien sûr. Alors La Fourche, c'est un magasin en ligne de produits bio qui fonctionne avec un modèle d'adhésion. Donc concrètement, pour pouvoir acheter et se faire livrer nos produits partout en France, il faut prendre une adhésion qui coûte 59€ par an.
Et largement rentabilisé.
Largement rentabilisé, puisque nos adhérents économisent en moyenne 300€ par an en faisant leurs courses chez nous. Et cette adhésion nous permet de proposer des produits qui sont jusqu'à 30% moins chers en moyenne que ce que vous allez avoir dans le commerce.
Parce qu'à La Fourche, hein, vous dites que le bio n'est pas réservé qu'à une élite.
C'est tout l'idée de La Fourche, c'est justement de le rendre accessible au plus grand nombre, et notamment aux ceux qui sont moins privilégiés, qui n'ont pas les moyens d'acheter tous les jours des produits bio.
Donc elle est un peu à l'encontre de toutes ces idées reçues, parce que c'est vrai que le bio, en général, on l'associe à des produits extrêmement chers. Hein.
En effet, l'idée c'est d'élargir la base de personnes qui peuvent consommer bio, à la fois de manière géographique, puisqu'on va livrer dans toutes les régions de France, dans les endroits où il n'y a pas forcément de magasins, mais aussi d'élargir d'un point de vue financier à toutes les classes de la population française.
La Fourche, vous êtes localisé où exactement ?
Alors nous, on est localisé en région parisienne. On avait un premier entrepôt en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, on est juste à côté, on est sur le RER B. On n'a pas énormément bougé, on est vraiment ancré dans le territoire de Seine-Saint-Denis.
Et vous livrez la France entière.
Et on livre la France entière, la Belgique et le Luxembourg.
Ah. Alors vous allez encore plus loin. Vous avez trouvé le moyen de proposer donc aux consommateurs des produits de qualité, prix réduit toujours, mais avec justement une autre façon, un nouveau projet anti-gaspi pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Alors peut-être juste avant, pour comprendre l'importance de cette initiative, pourriez-vous nous donner quelques chiffres ? Pour nous rappeler ce que représente aujourd'hui le gaspillage alimentaire.
Absolument. Alors le gaspillage alimentaire, il faut savoir que c'est absolument faramineux. C'est un aliment sur trois dans le monde qui est gaspillé. Si on devait représenter le gaspillage alimentaire par un pays, ce serait le troisième plus gros producteur de gaz à effet de serre dans le monde, après la Chine et les États-Unis.
Donc, mais c'est à quel niveau ? Au niveau des particuliers, au niveau des restaurants, au niveau des producteurs, des supermarchés ? Comment ça se passe ?
Il se fait à tous les niveaux. Ouais. Et la plupart des solutions s'attachent au dernier niveau, donc c'est-à-dire au magasin ou chez le restaurateur. Vous allez pouvoir sauver les derniers plats, etc. Mais la majeure partie du gaspillage se fait chez le producteur ou chez le transformateur, donc votre marque, qui va gaspiller en fait malheureusement 50% de ce qu'elle produit.
Vous parlez souvent de gaspillage alimentaire invisible, hein, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que ce gaspillage, le consommateur ne le voit jamais. Vous pouvez voir le gaspillage qui est en restaurant parce que vous voyez les assiettes remplies. Vous pouvez vous imaginer, en fait, vous êtes en contact direct, mais vous n'allez jamais visiter une usine d'une marque. Vous n'allez jamais aller chez des producteurs qui vont ensuite livrer des magasins. C'est complètement invisible pour le consommateur et ça représente la majeure partie du gaspillage en France.
Et pour quelles raisons sont-ils mis de côté, ces produits ? C'est une mauvaise gestion des stocks
Alors c'est pas tellement une mauvaise gestion, c'est que la première raison, c'est une question de date de durabilité minimale. Donc nous on est sur des produits secs qui sont toujours excellents même après avoir dépassé cette date-là, sauf que les distributeurs n'acceptent pas de les acheter. Ils n'ont pas d'offres packagées pour pouvoir expliquer aux consommateurs que ça a dépassé la date, etc. Donc ils préfèrent ne pas les acheter. Et nous on a créé justement cette offre-là sur notre site en expliquant que la date est dépassée, mais les produits sont toujours excellents. Et c'est une possibilité pour les marques qui travaillent avec nous, nos fournisseurs, de pouvoir justement éviter de jeter ces produits-là et nous les transférer. Il y a aussi une question de packaging qui évolue. Souvent, il y a des opérations spéciales, il y a des packagings qui sont faits pour un anniversaire ou qui changent.
Ah oui.
Et donc qui doivent être mis à la poubelle s'il reste un peu de stock. Et puis il y a des questions de gestion de stock, notamment pendant le Covid, on a eu l'exemple d'un fabricant de biscuits qui s'est retrouvé avec des milliers de biscuits sur les bras qui devait fournir normalement aux wagons-bars qui ont fermé pendant la période du Covid.
Mais alors, si c'est une question de DLC, hein, de durée limite, de date limite de consommation, pourquoi ne pas la décaler sur des produits secs ?
c'est ce qu'il faudrait faire. En tout cas, il y a un effort en ce moment pour faire comprendre aux consommateurs que c'est une indication, la date de durabilité minimale. Il y a la date limite de consommation, c'est pour les produits frais qui peuvent, un yaourt, on peut le consommer 2 semaines après, mais il peut y avoir des bactéries qui vont se développer. Dans les produits secs, c'est beaucoup moins le cas. Une conserve, vous pouvez la manger des années après sa date de durabilité minimale. C'est pour ça que c'est vraiment une date de durabilité minimale. Ça veut dire que l'intégralité des propriétés gustatives du produits sont conservés, mais si on la dépasse, c'est juste un gustativement que ça va changer.
Oui, ça par contre, un peu s'altérer, mais c'est pas dangereux pour la santé et ça peut
exactement
être mangé.
Ouais. Tout à fait.
Alors du coup, ce nouveau projet anti-gaspi, si on devait le résumer.
Ben concrètement, nous, on s'est rendu compte qu'il y avait donc 50% du gaspillage qui intervenait chez nos producteurs, nos fournisseurs. Donc on est allé voir, on leur a dit, ben nous, on est capable de vous racheter ces produits, évidemment moins cher parce qu'ils étaient censés aller à la poubelle, et on les propose sur un rayon dédié sur notre site. Et concrètement, aujourd'hui, on a écoulé 33 000 produits qui auraient dû être jetés. C'est l'équivalent de 13 tonnes de produits, 145 références, et qu'on propose à des prix qui sont 70% moins chers que ce qu'ils avaient été juste avant d'avoir dépassé cette date de durabilité minimale ou d'avoir changé de packaging.
En fait, c'est gagnant-gagnant, parce que pour ces entreprises, il y a une nouvelle règle d'ailleurs, il y a des lois qui régulièrement sortent pour lutter contre ce gaspillage alimentaire. Je n'ai plus en tête la date de cette prochaine loi qui, en gros, explique que quand vous générez un déchet, vous êtes responsable jusqu'à l'élimination de ce déchet. Donc vous, en proposant cette alternative-là aux entreprises, finalement, c'est intéressant pour elles.
Ça leur rend service, absolument. Ça leur rend service. Et nous, en fait, on avait la volonté de lancer ça. On s'est rendu compte qu'on avait des appels de nos fournisseurs qui nous disaient, je me retrouve avec cette palette sur les bras, je sais pas quoi en faire, j'ai pas envie de l'acheter.
Mais pourquoi est-ce que c'est pas versé à des associations? C'est à cause de cette DLC qu'on n'a toujours pas le droit de verser aux associations?
Alors, dans notre cas, c'est pas versé à des associations parce que ça demande la mise en place d'une logistique spécifique. Donc, il y a quelques associations qui arrivent avec quelques marques, mais c'est très ponctuel, en fait. Et nous, on permet, comme on a déjà des relations de fournisseurs avec eux, ils nous livrent déjà, donc c'est assez facile en fait juste de rajouter ces palettes-là qui avant devaient être jetées. On a déjà des relations contractuelles qui sont mises en place, donc c'est beaucoup plus facile de passer par nous.
Alors, quels sont les produits concernés? Quand vous dites du sec, c'est quoi exactement?
C'est tout ce que vous avez dans un magasin de quartier, sauf les produits frais, c'est-à-dire sauf les fruits et les légumes, et sauf le rayon, l'étage. Des produits de l'huile d'olive, vous avez des conserves, vous avez du chocolat, vous avez du riz, des féculents.
Des féculents. Oui, donc c'est large finalement.
Du maquillage, vous avez des produits d'hygiène, il y a absolument tous les essentiels en fait, qui ne sont pas au rayon frais.
Du coup, avec cette nouvelle initiative anti-gaspi, vous allez pouvoir toucher une autre tranche de la population. Des personnes qui ont peut-être un budget encore plus limité?
Absolument, et c'est vraiment l'idée. Déjà, on a déjà des initiatives, par exemple, on va offrir des adhésions. On a un système d'adhésion, on offre des adhésions à des personnes qui sont en difficulté financière. Ils ont juste la demande à le faire sur notre plateforme. Et donc là, c'est une initiative supplémentaire pour pouvoir élargir encore plus l'accès à ces produits au plus grand nombre.
Alors, quelle est la prochaine étape pour La Fourche?
La prochaine étape, là en ce moment on est en train de lancer un système de livraison qui est par coursier, donc avec réseau, avec réservation du créneau horaire de 2 heures. On l'a lancé en Île-de-France, ça cartonne et on aimerait bien reproduire ça dans toutes les métropoles françaises.
Alors c'est-à-dire qu'on comprenne bien ce système de livraison, qu'est-ce qu'il a de particulier?
Il a de particulier que vous pouvez choisir jusqu'à 22 heures un créneau de 2 heures, qu'il y a un coursier qui arrive, qui vous livre même au 5e étage. Donc c'est beaucoup plus flexible. Avant, on était sur la livraison un peu plus classique, on va dire à domicile ou du point relais. Donc là, ça facilite grandement l'utilisation du service pour des citadins qui sont occupés et qui sont pas toujours disponibles chez eux pour recevoir.
Jusqu'à 22h, c'est pratique dans les grandes villes.
Exactement.
Alors, combien d'adhérents aujourd'hui à La Fourche?
Aujourd'hui, on a 45 000 adhérents répartis dans toute la France.
Essentiellement dans les grandes villes ou même dans des zones un petit peu plus reculées?
Paradoxalement, en fait, principalement dans les zones périurbaines et les campagnes. En fait, on a assez peu de gens dans les centres-villes parce que c'est vraiment c'est des gens qui n'avaient pas accès à ces produits auparavant. Et en centre-ville, on a quand même beaucoup de possibilités pour acheter des produits bio.
Et au niveau de l'équipe, vous êtes combien à La Fourche
aujourd'hui?
C'est une entreprise ou une association?
C'est une entreprise.
Une entreprise qui regroupe combien de personnes?
Petite entreprise qui est en train de grossir. Aujourd'hui, on a commencé à 3 à faire des cartons avec mes associés à la Courneuve, dans un petit espace de 80 mètres carrés. Et aujourd'hui, on est 120.
Ouais. Et comment est venue cette idée, alors, de La Fourche?
Elle est venue, nous on est trois provinciaux, on va dire, qui sont installés à Paris, habitués à bien manger, à avoir accès à des nourritures de qualité, on va dire. On était assez choqués du prix, en fait, ouais, de l'accès à la nourriture de qualité à Paris, en région parisienne. Et donc on a cherché à trouver une solution qui convienne à tout le monde, aux familles, pour pouvoir continuer à avoir une alimentation de qualité, et puis encourager aussi des pratiques vertueuses, plus respectueuses de l'environnement. Donc on fait une sélection des producteurs les plus engagés, bio, mais encore plus.
Merci beaucoup Lucas Lefebvre. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de La Fourche. Donc pour ceux qui souhaiteraient rejoindre La Fourche, il suffit d'aller sur votre site internet, j'imagine.
Lafourche.fr.
Tout simplement. Merci encore Lucas. Allez, on se quitte une poignée de secondes. Et juste après, on va se retrouver avec des entrepreneurs qui ont décidé de produire leur thé sur le sol français. Mieux, le sol breton. À tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France. Nathalie Schrengerma.
Nous voilà de retour dans C'est ça la France, consacré aux idées ingénieuses pour éviter le gaspillage alimentaire et privilégier les circuits courts. Ils ont créé la première filière de thé en Côte d'Armor. On en parle tout de suite dans C'est ça la France.
Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Et nous sommes en ligne avec Thibaut Bernard, directeur des opérations chez Biogroup. Bonjour Thibaut Bernard.
Bonjour.
Alors peut-être déjà nous présenter Biogroup. Biogroup qui produit, je crois, des boissons, des desserts, des légumes fermentés.
Tout à fait. Donc Biogroup, on est une société innovante basée en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Et on a aujourd'hui trois gammes de produits différentes, à savoir une gamme boisson, une gamme dessert végétaux et une gamme légumes lactofermentés.
Vous travaillez ce qu'on appelle l'alimentation vivante.
Tout à fait. Nous, on veut être acteur de l'alimentation vivante et on se veut expert de la fermentation. Donc nos trois gammes, en fait, sont basées sur des produits fermentés.
Alors, on va le voir avec le bio qui est important, le local. Hein. Essayer d'être effectivement dans des produits aussi qui consomment le moins d'empreintes carbone, avoir l'empreinte
tout
carbone
à fait.
La plus basse.
Nous, on est vraiment 100% bio. On est au-delà de la réglementation au niveau du bio. 100% de nos entrants sont biologiques. On essaie de favoriser au maximum le local. Quand on n'y arrive pas, en fait, on souhaite avoir des partenaires et fournisseurs équitables.
Ouais. Alors, vous avez décidé de relocaliser la filière de thé en Bretagne.
Tout à fait. Donc, jusqu'à hier, en fait, on achetait notre thé bio et équitable à l'international. Et pour lors d'échanges en fait différents avec les acteurs du thé en France, des experts pour nous aider en fait dans notre domaine, on s'est rendu compte en fait que la culture du thé était possible en Bretagne.
Mais alors je pensais que les grands pays producteurs de thé, donc il y a l'Inde, il y a la Chine,
Kenya,
le Sri Lanka, oui, le Japon, je sais pas si c'est partie des grands pays, mais en tous les cas, c'est un pays qui compte dans la production de thé. Alors moi je pensais qu'il fallait un climat donc plutôt humide, ça on l'a en Bretagne, mais plutôt subtropical ou tropical, entre 20
Alors,
et 30
non,
degrés.
Non, forcément, en fait, les grandes cultures de thé aujourd'hui sont dans des climats un peu montagneux et climats montagneux, donc...
De l'altitude, on n'est pas en altitude
en
Bretagne.
L'altitude, non, pas du tout, mais ce qu'il faut en fait, c'est de l'humidité, de nuit fraîche et de l'humidité dans l'air. Donc l'humidité dans l'air, effectivement, en Bretagne-Nord, on en a un petit peu.
Alors, comment vous êtes rendu compte, justement, que vous pouviez produire du thé? Vous avez fait des essais avec des agriculteurs de la région? Comment ça s'est passé?
Ah oui, alors tout à fait. Là, on est en pleine phase expérimentale. On va avoir les premiers résultats à l'automne. On est vraiment très, très bien parti. Donc, aujourd'hui, on s'est basé sur l'expertise d'un producteur de thé, d'un multiplicateur plutôt de thé en Bretagne Sud. Et on s'est appuyé, en fait, sur son expérience, sur sa sélection des différents cultivars adaptés aussi au climat breton, à notre sol breton. Et on a pu, depuis le printemps dernier, commencer à cultiver notre thé sur une parcelle de 5000 m².
Ah oui, donc il y a le choix de la variété. Donc vous êtes parti sur des thés qui pouvaient être adaptés au sol breton. Quel type de variété? Est-ce qu'il y en a beaucoup et quelles sont-elles?
Alors, on va pas rentrer dans le détail des noms, mais on a testé 4 cultivars différents, en fait, et chaque cultivar est destiné à faire un thé vert ou un thé noir. Donc, en gros, nous, dans le plan d'expérience qu'on a défini avec la cultivatrice bio avec laquelle on travaille, c'est de trouver le cultivar qui a la meilleure croissance et avec lequel on va pouvoir faire le meilleur thé.
Et vous avez planté combien de plants de thé à ce jour?
On en a planté 2500.
2500 donc, plantés.
2500 plantés sur une parcelle de 5000 m2. Là, on vient d'acquérir de nouvelles parcelles et je suis en train de mettre en place la plantation de 1 hectare pour l'hiver prochain.
Alors, ça avait déjà existé dans le passé, vous êtes renseigné, ou ailleurs, peut-être en France, hein, pas forcément en Bretagne.
Oui, c'est aujourd'hui, on peut voir des petites plantations de thé sont en train de se démocratiser en France, on en compte à peu près une dizaine.
Et dans quel coin de France ?
Alors, il y en a dans à peu près tous les coins de France, en fait. La culture de thé est quelque chose qui est adapté, en fait, à notre climat français.
Mais alors, pourquoi est-ce qu'on n'est pas, on fait pas partie de ces producteurs de thé qui comptent ?
Ben parce qu'il n'y avait pas l'opportunité, en fait, encore jusqu'à présent, de le faire. Donc, d'autres producteurs comme nous, en fait, ont saisi la balle, en fait, et se sont initiés, en fait, dans ce projet global, en fait.
Parce que finalement, ça répond là aussi à votre souhait de lutter contre les effets, les gaz à effet de serre.
Bien sûr, aujourd'hui, nous, comme je le disais tout à l'heure, on a une grande partie de nos ingrédients qui est achetée à l'international. Donc, comme pas assez d'entreprises aujourd'hui, mais on avait une démarche en fait de compenser nos émissions de carbone. Et effectivement, la relocalisation en fait de nos productions peut être quelque chose qui intègre cette même démarche en fait pour limiter au maximum nos émissions de carbone.
Alors l'objectif c'est quoi ? C'est d'être autonome en thé local ?
Alors l'objectif à long terme, pourquoi pas, dans un premier temps, c'est valider en fait la culture du thé en Bretagne. On espère dans un délai de 2 ans de pouvoir produire notre premier kombucha avec notre thé donc 100% breton. Et après, on pourra augmenter progressivement la proportion en fait de notre thé dans nos boissons.
En même temps, dans le Gers, on fait du coton maintenant, du coton 100% français. Donc, on a des jeunes agriculteurs qui se sont lancés le défi de produire du coton sur le sol français. Mm-hmm. Vous, avec le thé en Bretagne, donc on sent bien finalement cette volonté toujours, on le disait, hein, de réduire l'impact carbone, essayer de valoriser le local, le circuit court. Alors ce qui est assez étonnant avec la plantation de thé, c'est que je me disais, en termes de partenariat avec des agriculteurs, il faut pouvoir, j'imagine aussi, les convaincre que ça puisse être rentable également pour eux.
Un des points clés de notre projet, en fait, c'est de trouver un agriculteur, en fait, qui soit déjà bio, qui soit proche de chez nous, parce que cette proximité est très importante, comme on le disait, et qui veut vraiment faire partie de l'aventure avec nous.
Parce que je pense notamment aux cornichons, là encore. Une des raisons pour lesquelles il y avait moins de producteurs, c'est la main-d'œuvre, puisqu'il y a une partie manuelle, notamment dans la récolte. Et donc, certains agriculteurs ont fait le choix d'autres cultures plus simples à récolter et plus rentables. Au niveau, là encore, de la récolte de thé, comment ça se passe ?
Alors, au niveau de la récolte de thé, il y a des petits outillages, en fait, qui existent. Nous, on va pas évidemment faire une grande plantation de thé comme on peut voir, comme on peut l'imaginer. C'est quelque chose de beaucoup plus petit. Donc, on est en train, en parallèle, de développer des outils, en fait, qui nous permettront de récolter notre thé de manière efficace.
Voilà. Et permettre, justement, donner envie à d'autres agriculteurs de vous suivre dans cette belle aventure.
C'est aussi ça, l'idée, en fait, de Biogroupe dans nos différentes actions. C'est d'initier, en fait, des actions.
En tout cas,
initier, montrer que c'est possible en fait, et essayer de le promouvoir le plus possible.
Eh ben, on a hâte de goûter ce thé 100% breton. Hein. Donc dans 2 ans
de
alors.
Hein.
Dans 2 ans, c'est ça l'échéance, vous disiez ?
C'est ça, oui. Dans 2 ans, on espère faire notre première récolte. Après, en parallèle, on va continuer de planter pour atteindre, on espère, dans un horizon 5-6 ans, une surface cultivée de 4 à 5 hectares.
Merci encore Thibaut Bernard, directeur des opérations chez Biogroupe. On va vous suivre, on a hâte de voir ce que ça va donner. Tout ça, c'est une très très belle initiative du thé en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Merci beaucoup.
Merci à
Thibaut
vous,
Bernard.
Très bonne journée.
Au revoir. Allez, il est temps d'aller retrouver Thibaut, notre French Trotter.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter.
Bonjour Thibaut. Alors, on va se balader avec vous. On va aller de quel côté, Thibaut ? Racontez-nous tout ça.
Eh bien, on va aller du côté de Lectour dans le Gers, car je vais vous parler du bleu de Lectour. Il s'agit d'un colorant naturel issu de la fleur de pastel. Il faut savoir qu'il était très prisé dans le sud-ouest avant de disparaître au profit des teintures artificielles. Mais il renaît aujourd'hui grâce à des passionnés qui ont retrouvé ce savoir-faire ancestral. Je me suis donc rendu à Lectour dans le Gers et j'ai rencontré Cécile Jex, qui anime l'atelier boutique, qui s'appelle justement le Bleu de Lectour, et elle nous raconte ce qu'on y fait.
Donc ici, on réalise de la teinture à partir donc de la plante, le pastel.
À quoi elle ressemble cette plante ?
Alors, c'est une plante qui est une crucifère bisannuelle et qui ressemble beaucoup au colza. Donc nous, on utilise donc dans un premier temps les feuilles pour pouvoir extraire le colorant, l'indigo de pastel, donc les feuilles de première année. Et la deuxième année, donc on va utiliser les graines des fleurs pour pouvoir en extraire l'huile de pastel pour réaliser des cosmétiques.
D'accord. Donc elle sert à la fois à la teinture et aux cosmétiques. Et ce qui est paradoxal, c'est que cette fleur, elle n'est pas du tout bleue, c'est ça ? Ce bleu, il n'existe pas à l'état naturel.
Oui, c'est assez étonnant.
Là, je suis rentré dans l'atelier. Vous étiez en train de faire quoi ?
Donc là, je suis en train de teindre des draps. Les draps anciens.
Comment on fait pour préparer cette fameuse teinture de bleu pastel ?
Alors donc, nous sommes producteurs de la plante.
D'accord.
Donc on extrait notre colorant, donc qui a l'aspect d'une poudre. Et donc là, comme c'est un pigment qui est insoluble, on va rajouter des ingrédients pour le priver d'oxygène. Alors là, il y a 3 cuves de teinture, donc 2 cuves en fermentation à base de henné, de date et de chaux, et une autre cuve à base de sulfate de fer et de chaux. Et bien sûr, dans chaque cuve, il y a aussi du pigment.
Alors, appliquer ? Donc là, vous avez appliqué la teinture sur des serviettes, c'est ça ?
Voilà, donc là, ce sont des serviettes anciennes pour une cliente. Ouais. Donc là, on doit lui teindre une nappe ancienne et les serviettes.
Par trempage ? Vous trempez
les... Alors d'abord, bien sûr, il faut que le textile soit blanc ou écru, en matière naturelle. Mmh. On va laver bien sûr le textile, le faire tremper. Il faut vraiment que le textile soit mouillé avant la préparation le jour J de la teinture. Mm-hmm. Et ensuite, donc, chaque textile va être rentré un par un dans la cuve de manière verticale.
D'accord, donc là, je vois votre apprenti est en train de tremper une serviette.
Là, vous pouvez voir, c'est assez magique. Lorsque ça ressort de la cuve, donc c'est jaune verdâtre. Et au contact de l'oxygène, ça va donc s'oxyder.
D'accord.
C'est pour ça qu'on appelle ça une teinture en oxydoréduction.
En oxydoréduction, d'accord.
Mais alors cette technique, Thibaut, c'est la même qu'autrefois ou est-ce qu'elle a évolué ?
Oui, elle a évolué. En fait, elle est très très proche, mais elle a quand même été améliorée avec les connaissances d'aujourd'hui, car le processus était vraiment très très long. Mais je propose de revenir sur l'origine de ce bleu pastel et la manière dont il a été redécouvert.
Donc c'est une culture et une teinture qui avait été oubliée pendant plus d'un siècle. Et grâce à monsieur et madame Lambert, donc les fondateurs du Bleu de Lectour, ça a pu revivre car ils ont découvert un peu par hasard des volets datant du XIVe siècle peints avec du bleu charrette. C'est ce que les paysans récupéraient au fond des cuves au Moyen Âge, qui servait au niveau du. On s'en servait pour faire des badigeons, surtout ce qui était charrue, charrette, corne des bœufs. Donc ça avait un pouvoir d'éloigner les insectes. Et en même temps, un pouvoir aussi de protéger les bois de l'extérieur. Donc, ils ont fait expertiser ces volets. Et l'idée est venue de cette manière-là. Et ils se sont lancés dans cette aventure en se faisant aider avec de l'école de chimie de Toulouse, Paul Sabatier, et aussi d'une coopérative agricole en Ariège.
C'est une tradition vraiment localisée ici, autour de Lectour, ou c'est plus large ?
Alors, le pastel a fait vraiment la richesse de Toulouse, Albi, Carcassonne, d'accord, au Moyen-Âge.
Donc, le Grand Sud-Ouest ?
Voilà, tout à fait, dans la région du Lauragais.
C'est bien d'évoquer notamment Nadine Lambert, son mari et sa fille que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans le cadre de tournage. Et c'est vraiment eux, effectivement, qui ont développé ce bleu de Lectour à l'origine. Alors, vous savez, à ces salles en France, on aime et on encourage la visite d'entreprise. Est-ce qu'on peut visiter le bleu de Lectour, Thibaut ?
Ben oui, bien sûr. Tous les renseignements sont sur le site bleudelectour.com. Et l'année prochaine, l'entreprise déménage pour investir un lieu beaucoup plus grand. Et là, il y aura des conférences, des démonstrations et des journées d'initiation à la teinture. Donc rendez-vous en 2022.
C'est bon signe.
Bleu de Lectour, nouvelle formule.
Ça veut dire que ça intéresse du monde.
Absolument.
Merci à vous, chers auditeurs. On arrive déjà à la fin de cette émission. Je vous souhaite à tous un très très bon dimanche. Et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et d'ici là, portez-vous bien.